dans un jardin, Jésus priait. Une de ses larmes de sang brillait pour que l'église ne s'éteigne jamais, jamais, jamais. Pour que l'église ne s'éteigne jamais. À jamais, nous sommes inscrits dans son cœur. La puissance de son amour, nos nuits changées en jours, nos nuits changées en jours. Une nuit dans un jardin, Jésus priait. Cette nuit-là, nous sommes nés pour l'aimer à jamais. Une nuit dans un jardin, Jésus priait. Cette nuit-là, nous sommes nés pour l'aimer à jamais. Père, éloigne de moi cette coupe, si c'est possible, mais que se fasse ta volonté, afin de vivre ce que tu m'as donné, afin de vivre ce que tu m'as donné. Père, je viens auprès de toi, me préparer une place pour qu'il soit avec moi, car bientôt je reviendrai les chercher. Bientôt je reviendrai les chercher. Une nuit dans un jardin, Jésus priait. Cette nuit-là, nous sommes nés pour l'aimer à jamais. Une nuit dans un jardin, Jésus priait. Cette nuit-là, nous sommes nés.
Moins 11 degrés ce matin quand Philippe est venu faire le feu. Mais c'est normal, c'est décembre. Hein? C'est vrai, ils n'arrêtent pas de nous bassiner ça. Alors c'est sur la une de tous les journaux, quand on allume la télévision on parle que de ça. Mais c'est normal, c'est pas une info. C'est normal, c'est normal. Bien. Ce matin, je vais vous parler de la non-représaille. On continue notre étude sur le sermon sur la montagne. Nous autres au sanctuary, on n'est pas obligés de suivre les traditions. On fait comme le Saint-Esprit nous conduit, et là, il nous conduit depuis quelque temps dans une étude. Alors, voilà, de temps en temps, comme dimanche passé, bon, on change un peu, on casse un peu le rythme, mais moi, j'aime bien continuer dans l'étude qu'on a commencée. Donc, ce matin, on va terminer l'année 2010. C'est bien, c'est pas triste, avec un message qui vient de Jésus-Christ. Et c'est sans doute le message qui nous lance le plus grand défi. Le plus grand défi. Et ce défi, c'est d'aimer nos ennemis, les méchants, les crétins, lapins. Lucas aime bien les crétins, lapins. C'est ça comme ça qu'on dit, les latins, lapins crétins. Voilà, je crois qu'aucun message nous demande plus de compter sur le Saint-Esprit, d'être soumis au Saint-Esprit. Et je crois que nulle part ailleurs, on a autant besoin du Saint-Esprit pour qu'il soit là, vraiment, qu'on ait conscience de sa présence avec nous et qu'on compte sur lui, que dans cette affaire de non-représailles. Je voudrais qu'on lise Matthieu chapitre 5, verset 38. On commence au verset 38 et on va aller jusqu'au 42. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas vous opposer aux mauvais ou aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton vêtement. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire un mille ou un kilomètre, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter quelque chose. Amen. Faites-vous asseoir, mes frères et sœurs. Alors là encore, Jésus nous parle d'un enseignement que les rabbins prenaient dans la loi de Moïse et qu'ils enseignaient à leur façon. Il faut savoir que la loi de Moïse, c'était un code civil, mais c'était aussi un code moral. C'était donc il n'y avait pas une autre justice que celle imposée par Dieu. C'était une théocratie. Hein. Si vous lisez Exode 20, par exemple, eh bien, vous allez trouver les 10 commandements. Et les 10 commandements, c'est l'essence de la loi. C'est, si vous voulez, c'est le résumé de la loi. Et quand vous lisez le chapitre 21 jusqu'au chapitre 23 de ce même livre de l'Exode, alors là, vous allez trouver toute une série d'ordonnances. Et ces ordonnances, elles s'appliquent, elles appliquent les normes des 10 commandements, si vous voulez, dans la vie du pays d'Israël, bien que ça n'était pas encore un pays, puisqu'ils étaient en marche pour aller vers ce pays. Mais déjà, là, on devait vivre comme si on était une nation, un peuple, quelques personnes ensemble qui veulent vivre quelque chose. Et alors, ils vivaient déjà comme une nation. Ces ordonnances du chapitre 21-23 étaient ce qui devait être appliqué à la nation d'Israël qui allait naître bientôt. Alors, on trouve beaucoup de cas qui sont exposés là, dans ce chapitre 21-23 d'Exode. Et on remarque que la plupart parlent de ce qui arrive quand des personnes ou quand des biens ont été attaqués. Hein, si on te fait ci, si on te fait ça, si on te vole ceci, si on te prend cela. Et c'est là qu'on trouve cette fameuse phrase « œil pour œil, dent pour dent ». Les gens disent « œil pour œil, dent pour dent », ils ne savent pas la plupart d'où ça vient, « œil pour œil, dent pour dent ». On va lire Exode 21, si vous voulez, ensemble, du verset 22 au verset 25. Exode 21. 22-25. Lorsque des hommes se querelleront, heurtent une femme enceinte et que son enfant sort sans autre accident, ils seront condamnés à une amende fixée par le mari de la femme sur la vie d'arbitre. Mais s'il y a accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Vous voyez, c'est terrible. C'est terrible. Maintenant, ce n'était pas à n'importe qui de juger et de prononcer la sentence. Ce n'était pas à n'importe qui. Il devait y avoir des spécialistes de la loi, des enquêteurs sérieux, des gens qui travaillaient. Alors on trouve ça dans Lévitique 19, versets 18 à 21. Je dis tout ça parce que ça peut sembler terrible, des lois comme ça, mais elles avaient des immenses avantages. Et un, qui peut peut-être nous échapper à la première lecture, ça donnait aux juges le droit d'exercer la justice et par ce fait même, ça enlevait aux gens le droit de se venger eux-mêmes, d'exercer la justice eux-mêmes. C'était très bien. Ces lois interdisaient qu'on rende justice à titre privé. C'était très bien. En ayant recours à là, ce qu'on appelle pas la Michael Vendetta, mais la Vendetta tout court, il n'y a pas besoin de... La Vendetta. De toute façon, Moïse, il avait aussi écrit au sujet de la vengeance dans Lévitique 19-18. C'est écrit, ne te venge pas, ne sois pas rancunier à l'égard des fils de ton peuple. Alors, qu'est-ce que Jésus enseigne quand il reprend tout ça? Qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il n'est pas contre le principe de la rétribution, c'est-à-dire il n'est pas contre le principe que quand quelqu'un a fait mal, il doit payer. Il n'est pas là contre, parce qu'en fait, c'est un principe qui est juste. Il est aussi en accord avec l'interdiction de juger et de prononcer la sentence et de se venger soi-même. Il le dit un peu plus tard, dans le même sermon, au chapitre 7, verset 1, « Ne vous posez pas en juge afin de ne pas être jugé. » Voilà la position des personnes, voilà la position du disciple de Jésus. Et Jésus attire surtout l'attention de ceux qui sont en train de l'écouter ou qui sont en train de lire sur le jugement dernier. Il y aura un jugement dernier. À la fin, il y aura un jugement. De toute façon, vous serez en quelque sorte dédommagés. Il y aura un jugement. Alors, nos relations humaines, d'après ce qu'on comprend de ce que Jésus enseigne et de tout ce que le reste du Nouveau Testament enseigne, ça doit toujours reposer sur l'amour et la justice. Pas seulement l'amour, mais aussi la justice. Et vous allez voir pourquoi. C'est important. Chacun sait qu'il y a de toute façon une rétribution à la fin, et Jésus insiste beaucoup là-dessus, le tribunal de Dieu. Parce qu'encore, on peut échapper au tribunal humain, mais au tribunal de Dieu, on n'échappera pas. Alors, comment est-ce qu'on peut pratiquer, comment est-ce qu'on peut vivre ces choses dans la vie de tous les jours, d'après ce que Jésus enseigne? Eh bien, face à ceux qui nous font du mal, qui nous font du tort, notre devoir, c'est de ne pas punir nous-mêmes, mais nous devons accepter la justice sans esprit de vengeance et même renoncer à la réparation. Il faut même renoncer à avoir une réparation quelconque. Jésus dit au verset 39, « Ne résistez pas aux méchants. » Alors on peut dire, « Oui, mais ça c'est bien, mais il faut réfléchir. » Ça veut dire quoi exactement cet appel à la non-résistance? Ça veut dire quoi? Alors le mot grec pour résistance, excuse-moi Priscille, toi qui as fait du grec, c'est « un antistémie, avec l'accent franchouillard, ça va être super. Ça veut dire résister, ça veut dire tenir tête ou supporter. Alors, il y a quelque chose qui nous est carrément interdit par Jésus, c'est la résistance. Ne résistez pas aux méchants, c'est un commandement. Ok, mais la résistance à qui? Qu'est-ce que c'est? C'est interdit de résister à qui? Et c'est interdit de résister à quoi? Chaque fois, enfin presque chaque fois dans le Nouveau Testament, quand on trouve ce mot grec, c'est pour nous dire de ne pas résister à Dieu. C'est pour nous dire de ne pas résister à sa volonté, c'est pour nous dire de ne pas résister à sa vérité, c'est pour nous dire de ne pas résister à son autorité. Et puis, d'autres fois, ce mot il est aussi utilisé pour nous dire de résister au diable. Tous les apôtres nous enseignent que nous devons nous opposer à celui qui est le malin, on doit s'opposer. Et à toute sa puissance, on doit résister. Alors, est-ce que Jésus nous enseigne le contraire quand il nous dit qu'il ne faut pas résister au mal? Ben, il y en a qui ont cru ça et qui ont fait des bêtises énormes. Et qui ont conduit les gens dans des bêtises énormes. Bien sûr que Jésus veut que nous nous opposions au malin, c'est-à-dire que nous ne nous compromettions pas dans le péché avec Satan, avec le péché et ces choses-là. C'est ça que ça veut dire. Et si nous nous vengeons, eh bien, nous nous compromettons avec le mal. C'est ça que Jésus veut nous dire. Mais moi, je vous dis de ne pas vous venger de celui qui vous fait du mal. Si on désobéit à ça, on ne résiste pas au diable, on fait son jeu. Parce que le diable, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on se venge. Il adore ça. Nous provoquer pour qu'on se venge. Alors Jésus nous donne 4 exemples de méchants. Premièrement, celui qui vous frappe sous la joue droite, je pense que celui qui nous frappe sous la joue gauche, c'est la même chose, c'est pas gentil du tout. Hein. L'autre, le deuxième, c'est celui qui veut te faire un procès pour te prendre ce que tu as. Le troisième, c'est celui qui te réquisitionne de force pour un service. Et puis le dernier, c'est celui qui te demande de l'argent. C'est terrible, hein? Eh bien, Jésus nous enseigne de ne pas résister à cette sorte de méchant-là, à cette sorte de personne. Alors, il les reconnaît comme méchants, mais il ne veut pas que nous leur résistions. Alors, c'est pourquoi il y a tant de méchants qui rôdent, des méchants de la quatrième catégorie, qui rôdent autour des églises et dans les églises, parce qu'ils ont lu les Écritures, puis ils disent, ah, ils n'ont pas le droit de me résister, donc on ne va pas se gêner, on va leur demander de l'argent. Ou du moins, on va leur faire comprendre que ça serait bien s'ils nous en donnaient. Donc, ils savent que l'ordre de Jésus, c'est de ne pas leur résister. Alors, c'est génial pour eux. Mais ils oublient qu'il y a un jugement à la fin. Ils oublient ça. Pour la première sorte de méchant, celui qui gifle, Jésus fait allusion à une chose tout à fait particulière. À l'époque, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était toujours religieux, la loi. Tribunaux, tout ça, c'était des religieux. Alors, à cette époque-là, on giflait publiquement en plein tribunal les hérétiques. Et Jésus a été giflé comme ça. Et Paul a été giflé comme ça. Souvenez-vous les textes. Et donc, ils nous disent, si on te gifle pour hérésie, tends l'autre joue. On vous traite d'hérétique, on vous traite de faux docteurs, on vous dit que vous avez des fausses doctrines, laissez dire. Au contraire, donnez-leur même l'occasion de le redire encore et de le redire encore et de le redire encore. Vas-y, à gauche, à droite. Qu'est-ce qu'il veut Jésus en enseignant ça? Il veut donner à ceux qui le suivent le véritable sentiment de la véritable supériorité face à ceux qui font le mal. Il veut nous dire, vous êtes supérieurs, vous êtes d'une race élue, vous êtes supérieurs, faites partie d'un sacerdoce royal. N'est pas vous abaisser à vous venger. Un chrétien véritable n'est pas offensé par n'importe qui. C'est ça qu'il veut nous dire. Jésus n'était pas offensé qu'on le traite de diable ou de tout ça. Il savait qui il était. Alors, ce qui peut sembler offensant, ça n'est pas vraiment. Ça ne l'est pas vraiment. Pour celui qui sait d'où vient sa doctrine, pour celui qui sait d'où lui vient l'inspiration, ce n'est pas offensant. Ça peut faire bobo un petit moment, mais c'est pas vraiment, il n'y a pas de quoi se venger, d'en faire un plat ou une pendule. La réaction chrétienne face aux gifles ne font que ajouter de la valeur à ce qui est considéré comme une hérésie par ceux qui font le mal, c'est-à-dire qui vous jugent et qui vous condamnent. Alors Jésus, lui, la Bible nous dit qu'il a livré son dos à ses ennemis, il a livré ses joues à ses ennemis, à ceux qui lui arrachaient sa barbe, il n'a pas caché son visage aux outrages et aux crachats. On trouve ça dans Ésaïe 50, verset 6. Voilà la position de Jésus. Jésus ne bronche pas. Il est maître de lui-même. Et c'est ce qu'il nous enseigne à devenir. Quand il nous parle de ces lois-là, il nous parle de devenir maître de nous-mêmes. Maître de nous-mêmes. C'est un travail, ça prend la vie, toute la vie. Et puis souvent, il faut recommencer, à recommencer. Donc, il ne faut pas fuir devant cet enseignement de Jésus. Il faut le prendre tel qu'il est donné, en y réfléchissant, en demandant au Saint-Esprit de nous inspirer, parce que des cas vont se trouver devant notre vie. Et puis alors, on va devoir savoir comment agir dans ces cas-là. Eh bien, c'est pourquoi les études. C'est pourquoi les études. Notre association à la croix de Jésus doit être visible. Il ne suffit pas de dire simplement « je viens à ta croix pour déposer mes péchés, et puis point ». Non. On doit porter sa croix, on doit être crucifié, ça doit être visible dans notre vie. Pierre, il a écrit, alors Manu, mon ami Manu, dit que Pierre ne savait pas lire, donc il ne savait certainement pas écrire non plus. Si tu m'écoutes Manu, c'est juste un petit clin d'œil pour te dire ce que Pierre a écrit. Pierre a écrit « le Christ a souffert pour nous, nous laissant un exemple » afin que vous suiviez ses traces. Lui qui, insulté, n'a pas rendu l'insulte, dans sa souffrance, ne menaçait pas, mais s'en remettait au juste juge. 1 Pierre 2, 21-23. C'est vrai, on dit beaucoup que l'apôtre Pierre, il dictait ses lettres, qu'il était, illettré. Mais bon, il se faisait aussi lire Enoch, il se faisait aussi lire toutes ces choses-là merveilleuses. Donc quand j'écris « Pierre a lu Enoch », ça ne veut pas dire qu'il savait lire forcément, mais en tout cas, il avait connaissance, il se faisait lire « Voilà Manu, je te l'ai dit !» Ce qui est important de savoir, c'est que nous devons regarder Jésus comme un exemple. Toutes ces choses qu'il a souffertes, il nous a laissé un modèle, comment réagir. Vous voyez, c'est une question de nature. Autrefois, on était des méchants, l'apôtre Paul dit, vous étiez du nombre des méchants. Autrefois, on était des méchants, aujourd'hui, on est des gentils. C'est-à-dire, on est passé de l'autre côté, on était lavé par Jésus-Christ, on était purifié par lui. Donc, autrefois, si vous voulez, on était des marteaux, et aujourd'hui, ben, on est des enclumes. Bonjour les enclumes. En 42 ans de ministère, je n'ai jamais vraiment été l'enclume de quelqu'un, grâce à Dieu. Pas vraiment l'enclume. Par contre, j'ai été au moins 10 000 fois le paillasson. Une fois même, j'avais écrit, c'était à Teen Challenge, j'avais écrit sur ma porte, c'est ici la poubelle. C'est là qu'on vient déverser toutes les saletés. La poubelle. Bon, alors, est-ce qu'on doit être mou parce que voilà, bon, on doit tout accepter, on se prend tout dans la tronche comme ça, puis on ne réagit pas. Alors, regardons Jésus, puisqu'il est notre modèle. Devant le grand prêtre, Jésus, il a osé le défier en plein tribunal. On va lire ça dans Jean 18, 19, 23. Jean 18, 19, 23. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus répondit, « Moi, J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se rassemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Ce dont j'ai parlé, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Ils savent bien, eux, ce que moi j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui était là donna une gifle à Jésus, voyez, en disant, « Est-ce ainsi qu'on répond au grand prêtre ?» Jésus répondit, « Si j'ai mal parlé, prouve-le. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me battu ?» Il osait résister, en quelque sorte, voyez. Jésus, c'était un homme fort, et il a osé défier cette autorité-là. Mais c'était un homme fort, et sa maîtrise de lui, plus son amour, le rendait si fort qu'il pouvait renoncer à se venger. Qu'est-ce qu'il pouvait faire dans le tribunal? Ben, les transformer en statues de sel, mais alors illico presto, hein. Ou en tas d'immondices, en tout ce que vous voulez. C'était, pour lui, c'était rien du tout de le faire. Il est Dieu. Alors, non, il a été fort. Il a quand même dit son mot, mais sans insulte, sans... Voilà. Alors, les quatre méchants dont Jésus nous parle là, ce n'est pas les quatre seuls méchants auxquels on doit résister, puis les autres, on ne leur résiste pas. Ce sont des représentants d'un principe, si vous voulez. L'amour ne rend pas le mal pour le mal. L'amour nous rend libre de l'animosité personnelle. Voilà, l'amour. Le disciple de Jésus, il rend le bien pour le mal, jusqu'à donner son corps, ses biens, ses vêtements, tout, parce qu'il est animé par l'amour. C'est ça l'enseignement de Jésus. Toutefois, il y a quand même des limites. Il y a quand même des limites à la générosité des disciples de Jésus-Christ. Par exemple, Paul. Paul, il a résisté à Pierre. À Pierre, qui avait coupé les ponts avec les non-juifs. Paul, il aurait pu laisser faire. Et puis c'est une histoire dont on n'aurait jamais entendu parler. Et puis point final. Mais il a choisi de reprendre publiquement Pierre et de dénoncer son comportement. Fermement. Mais il n'a pas montré d'animosité. Il n'a pas frappé Pierre, il ne l'a pas insulté, non. Premièrement, il a témoigné d'un grand amour pour les chrétiens d'origine non-juive que Pierre avait offensé. Deuxièmement, il a montré un grand amour pour l'évangile que Pierre avait désavoué. Donc, on lit ça dans Galates 2, 11, 14, donc c'était juste de le faire. Alors des fois, on se justifie, on se trouve quand même pas toujours dans des cas si graves. La plupart du temps, c'est pour une question de est-ce que c'est ton tour de faire la vaisselle? Est-ce que c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Là, je suis en train de donner des cas. Jésus en a donné quatre, je pourrais donner quatre ou cinq aussi. En général, c'est quand même des choses assez futiles. C'est pas très... Ça remet pas l'histoire, ça remet pas l'enseignement de Jésus en compte, ça remet pas... Vous voyez, c'est pas trop grave, pas aussi grave que le comportement que Pierre avait eu là. L'enseignement de Jésus sur les quatre méchants, donc, il ne constitue pas une charte qui fait le lit des tyrans sans scrupules, des mendiants, des bandits, des brutes, hein, pour citer les quatre méchants, pas du tout. Cette charte, elle vise à empêcher simplement la vengeance. C'est tout. Mais à encourager la justice. Cette charte ne cherche pas à nous décourager d'aller en justice, à nous décourager d'être juste. Elle ne nous encourage pas à être malhonnête. Elle cherche pas, avec cette loi-là, on ne peut pas encourager le vice. Quand Jésus dit ne résistez pas au mal, il n'encourage pas non plus le pacifisme. J'ai lu une histoire, c'est Luther qui raconte ça, il y a un excellent livre qui s'appelle « Les propos de table », si vous voulez, vous pouvez acheter ça, ils viennent de le rééditer il y a deux, trois ans. C'est Luther qui parlait à table, et puis à table, il y avait toujours un de ses disciples pour écrire ce qu'il disait. Alors il racontait l'histoire d'un chrétien qui s'était laissé ronger, mais réellement, il en est mort, par les poux, parce qu'il refusait de résister au mal, et il voulait obéir au commandement, qui dit qu'il ne faut pas s'opposer au mal. Donc, il s'est laissé bouffer. Vous voyez, c'est idiot. Vous êtes d'accord, c'est quand même idiot. Alors, il faut comprendre que les commandements de ne pas juger, ne pas s'opposer au mal, ne pas punir, ne s'appliquent pas à tous. Jésus n'est pas contre les tribunaux, pas du tout. Ni contre l'ordre dans son Église, pas du tout. Ce sont des autorités qui ont été placées par Dieu pour des certaines fonctions, par exemple la police, l'armée, ils ont des droits que moi j'ai pas, que vous n'avez pas, que nous n'avons pas, mais ces droits-là qu'ils ont, que nous n'avons pas, c'est leur devoir. Vous voyez? Donc c'est pas si simple de dire « Oh, Jésus a dit, ne résistez pas au mal, tout ça. » Non? Il ne faut pas résister à nos ennemis, ne signifie pas qu'il ne faut pas livrer, par exemple, à la police des personnes délinquantes. L'État, c'est une institution qui est divine et qui a, entre autres, le pouvoir de punir les malfaisants. On trouve ça dans Romains 13. L'État est institué par Dieu et tout. Puis dans, c'est rigolo, hein? C'est dans Apocalypse 13. Romains 13, Apocalypse 13. Dans Apocalypse 13, on trouve aussi que l'État, des fois, parfois, est allié au diable. Il nous faut toute la sagesse de Dieu pour savoir quand est-ce qu'il faut, quand est-ce qu'il ne faut pas. Le fait que Dieu ait voulu établir des États qui ont des droits, des devoirs, ne signifie pas que certaines personnes qui sont placées dans des places d'autorité, ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas succomber au diable et devenir des suppôts de Satan. Alors, il n'y a pas de réponse toute faite à tous les cas pour savoir que faire. Par exemple, en cas de guerre, vous avez des objecteurs de conscience. Vous avez, et moi, je ne veux pas commencer à rentrer là-dedans. C'est leur conscience. C'est leur, voilà, puis c'est... Mais nous avons tous le devoir de savoir où nous on en est. Comme par exemple aussi dans une dictature. Il y a des situations dans des pays, mais quand vous leur dites « soyez sous nos autorités », c'est pas... Il faut avoir toute la sagesse du Saint-Esprit. Ce que Jésus veut que nous sachions, nous, ses disciples... Quand je dis nous, c'est nous qui sommes ici au sanctuaire, mais vous aussi qui regardez la vidéo, ou vous qui êtes en train d'écouter sur Internet, c'est que les fonctions de l'État ne sont pas les fonctions des individus. On n'a pas à juger ceux qui jugent quand ils sont juges. Je me rappelle toujours quand Michael Jackson a été condamné, j'étais aux États-Unis à ce moment-là, et sur une télévision, une chaîne de télévision, il y avait Billy Graham qui racontait ce qu'il en pensait. On lui demandait « qu'est-ce que vous en pensez ?» Il a dit, bien, les juges ont jugé, moi je me plie à ce que les juges ont déclaré. S'ils ont déclaré qu'il est innocent, c'est qu'il est innocent, on n'a pas à revenir là-dessus. Ils ont tout le dossier, moi je n'ai pas le dossier. J'ai des impressions, j'ai entendu des choses, j'ai lu les journaux, je ne peux pas juger correctement la chose. Je trouvais que c'était très sage. Et ça doit être notre position aussi. Maintenant, on peut toujours faire appel aussi s'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait correct. Et on a dans les tribunaux des gens qui sont habilités pour nous dire vous devriez faire appel, vous devriez demander à ce que ça soit rejugé. Parce qu'il y a des fois aussi, c'est humain. Heureusement qu'on a toutes ces possibilités, du moins dans nos pays. En parlant de Billy Graham, il a souhaité ses vœux, j'ai vu ça sur Internet, c'est pour les vœux de Noël, si vous pouvez aller voir ça sur YouTube ou sur Dailymotion, c'est très émouvant de voir ce vieil homme, cet homme de Dieu qui est encore là et qui parle encore de Jésus. Je n'ai pas compris tout ce qu'il dit parce qu'il parle anglais, évidemment, moi non, toujours pas, mais c'est très beau de voir cet homme de Dieu, magnifique. Donc ce que Jésus veut, c'est que nous sachions que nous n'avons pas, en tant qu'individu, les mêmes droits que les États. Face aux méchants, un individu, il est invité par Jésus à agir suivant la sagesse de Paul. Et Paul, il disait, ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Il disait aussi, ayez à cœur de faire le bien devant tous les hommes. Ça demande une sacrée maîtrise de soi. Il disait aussi, ne vous vengez pas vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui donnerai la rétribution, dit le Seigneur. » C'est terrible aussi. Hein? Il disait « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant cela, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. » Alors beaucoup pensent que « Ah, si je suis gentil avec mon ennemi, eh bien je suis en train de mettre un petit peu l'enfer sur sa tête. » Non, c'est pas ça du tout. Il faut savoir qu'à l'époque, le feu, c'était quelque chose de très précieux et on était tenu de donner des charbons ardents aux gens, même à nos ennemis. Ça faisait partie, c'était une loi, si vous voulez, n'était pas écrite, mais c'était une loi de savoir-vivre, une loi normale, de donner à celui qui n'avait plus de feu dans sa maison, de lui donner quelques braises, quelques charbons ardents. Alors la personne, elle venait, vous savez, c'est quand même l'Afrique, hein, là-bas. Et ils portaient sur leur tête des petites cassettes de métal. On mettait des braises là-dedans et puis on amassait donc des charbons ardents sur la tête. Donc on bénissait ceux qui n'avaient plus le feu. Et quelqu'un qui vous fait du mal, c'est quelqu'un qui n'a plus le feu, quoi. Donc on met des charbons ardents. Ça veut dire que nous, Dieu, il va le juger. Dieu, il va le. Mais nous, on peut le bénir. Et on peut demander à Dieu de le bénir. On peut demander à Dieu de le pardonner. Et d'effacer cette chose-là. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire, cette chose. Ça ne veut pas dire que, ha, 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 t'es mon ennemi, tu m'as fait du mal, ben je te tiens du bien, puis tu vas voir ce que tu vas prendre sur ta tête. Non, ce n'est pas ça. Romain, c'est pas, ça ne va pas du tout avec l'enseignement de Jésus ni des apôtres. Tout ça, ça se trouve dans Romains 12, 17, 21. Donc Dieu peut rendre justice ici-bas, mais il peut aussi attendre le jour du jugement dernier. Mais de toute façon, tout sera jugé. Et le méchant sera puni selon ce qu'il a fait, de toute façon, à moins que tu pries pour que Dieu le pardonne. Et c'est ce que Jésus nous dit, de prier pour nos ennemis, non? Alors voyez, donc il y a deux serviteurs et deux fonctions. Un, il y a nous sommes serviteurs de Dieu et nous devons rendre le bien pour le mal. Et puis deux, l'autre, serviteur de Dieu aussi, qui est l'État et qui punit le méchant. Vous voyez que c'est pas simple. Et l'Église a aussi une place d'autorité. Alors, que les personnes dans l'Église n'ont pas, mais en tant qu'Église, alors oui, il y a un conseil. Et Jésus a parlé de la nécessité, par exemple, d'excommunier les pécheurs qui sont obstinés, qui ne veulent pas se repentir, qui ne veulent pas changer, qui mettent la pagaille. Alors, excommunication, ça c'est aussi Jésus qui l'enseigne. Alors vous voyez, ce n'est pas simple. Il n'y a rien de simple. Ce n'est pas simplement « aimez-vous les uns les autres, la. » Non, non. Par exemple, ne pas s'opposer aux méchants, ça ne peut pas être utilisé, cette phrase, pour laisser les pédophiles continuer leur cochonnerie, leur monstruosité. On ne peut pas. Il faut s'opposer à ces méchants-là, mais clairement. Mais pas en les zigouillant nous-mêmes, mais en les dénonçant. Il faut les dénoncer. Il faut le faire. Ils en ont besoin, mais c'est surtout les autres, les gamins. D'accord? C'est clair. Ou on ne peut pas laisser l'anarchie politique s'installer sous prétexte qu'il ne faut pas s'opposer aux méchants. Je ne veux pas parler de politique ici, ni de ce qui se passe à l'heure actuelle. Vous suivez les actualités, mais on ne peut pas laisser ça faire ça. Il y a des autorités qui sont là pour juger, pour faire les choses telles qu'elles doivent être faites. Et ce n'est pas à nous de nous emmêler. Nous, ce qu'on peut faire, c'est prier, lier les mauvais esprits, les chasser et prier, intercéder. Mais on ne peut pas commencer à prendre les armes et puis aller dans la rue. Et puis, non, ça ne va pas, ça ne va pas. On peut pas non plus être des pacifiques totales. La pensée de Jésus, c'est que ses disciples ne doivent pas être animés par le désir de causer du mal. C'est ça l'idée de Jésus principale. Mais par la détermination, Jésus invite ses disciples à contribuer au bien de tous. Et ça, c'est, il faut qu'on ait ça dans notre cœur, mais il faut aussi qu'on pense que nos frères et sœurs sont animés par cet esprit-là, même quand il semble qu'ils nous font du mal. Le message de Jésus ne se borne pas qu'au salut, à la guérison, à l'abondance matérielle, au baptême dans le Saint-Esprit, à son retour qui est là pour bientôt. Non, 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 non. C'est très complexe, le message de Jésus. Par exemple, ce sermon sur la montagne, c'est LE manuel de savoir vivre, comment se comporter dans toutes sortes de situations. C'est immense. Et quand les gens l'écoutaient, des gens sérieux, il y avait des gens sérieux qui allaient écouter, qui étaient des intellectuels déjà à l'époque aussi, et qui écoutaient. Et ils disaient, et je vais terminer là-dessus, quand ils entendaient ça, ils disaient, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais. C'est d'une profondeur, c'est d'une sagesse. En fait, déjà Moïse, c'est extraordinaire, pensez, ça fait bientôt 4000 ans que cet homme a écrit ces choses-là, si ce n'était pas inspiré par Dieu, mais c'est fantastique. Et comment Jésus a mis les choses au clair pour que nous puissions vivre une vie qui est magnifique. L'influence de judéo-chrétienne sur nos pays, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous ne le croyez pas, ben allez dans les pays qui ne sont pas sous influence judéo-chrétienne, puis vous allez voir la différence. Mais c'est formidable, il y a une sagesse qui permet que nous puissions avoir un minimum beaucoup de confort et de tranquillité. Évidemment, il y a toujours des couacs, parce que c'est quand même humain. Et on a sorti Dieu de nos affaires la plupart du temps. Donc maintenant, regardez par exemple les écoles. On a sorti Dieu des écoles. Ben, regardez ce qui se passe dans les écoles maintenant. Ça, c'est un grand tort de l'État. Mais c'est pourquoi nous devons prier pour les États. Prier pour notre pays. Prier pour les autorités afin qu'ils soient bien inspirés. Par exemple, là, au solstice d'hiver, Nous avons prié à 12h39 le matin. Nous étions tous sur nos hôtels de prière à invoquer le nom de Jésus parce que nous savons qu'à ces moments-là de l'année, les sorciers et tous ces malfaisants se réunissent et maudissent l'Église, maudissent les États, maudissent les présidents, les députés, les parlementaires, maudissent tous ceux qui ont des places d'autorité afin de déstabiliser tout, de mettre le chaos. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons être là et repousser ces ennemis derrière leurs portes. Et c'est ce que nous avons fait, nous continuons à faire, et nous continuerons à le faire. Nous avons des rendez-vous, nous les fixons sur Révélation Bible, vous pouvez les trouver en première page tout le temps, c'est très important. C'est très important. Ça, on peut faire. Comme ça, on peut résister au mal aussi. Hein, mais pas en allant se venger ou des choses comme ça. Jamais. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous aide dans cette fin d'année et puis dans l'année qui vient. Si vous êtes giflé ou si on vous force à faire quelque chose ou si ceci ou si cela, vous saurez comment réagir et moi aussi je saurai. Et si vous voyez que je me trompe un moment, ben, venez me reprendre. On a tous besoin des uns des autres. Comme je dis souvent, Jésus, l'apôtre Paul nous dit que nous avons crucifié notre chair. Alors c'est vrai qu'on a crucifié notre chair. C'est nous-mêmes, nous devons nous crucifier nous-mêmes. Alors on crucifie une main, on crucifie les pieds, mais on a toujours besoin de quelqu'un pour nous crucifier la dernière main. On ne peut pas se crucifier la dernière main tout seul, parce qu'il y a déjà un clou dans l'autre. On a besoin des autres aussi pour nous faire mourir à nous-mêmes, pour nous faire vivre par l'Esprit. Que Dieu nous aide, que Dieu nous dirige, que Dieu continue à nous guider, que Dieu ait compassion de nous et que nous puissions ainsi lui plaire jusqu'à son retour. Amen. Amen. Merci Jésus pour ce message un peu bizarre, peut-être pour une fin d'année, mais je sais que cela peut faire du bien à ceux qui l'écoutent. Je pense en particulier à mes frères et sœurs qui sont là-bas en Côte d'Ivoire. Veuillez les bénir, les fortifier, les soutenir et leur donner toujours d'être sages et d'être inspirés par toi pour faire les choses telles qu'elles doivent être faites dans ton esprit d'amour et de justice. Père, dans le nom de Jésus, je te le demande, mon Dieu. Amen.